avec Alliance Vita au service des plus fragiles.
Chers auditeurs, mardi 1er octobre, à la tribune de l'Assemblée, pour son discours de politique générale, Michel Barnier s'engageait, avec prudence, à reprendre le dialogue avec le Parlement, avec les soignants et les associations en début d'année prochaine sur le projet de loi fin de vie dont l'examen a été stoppé net par la dissolution. Il promet aussi, sans attendre, que des efforts en faveur du développement des soins palliatifs seront renforcés en 2025. Soit. Mais patatras, certains lobbies faisant preuve d'une efficacité redoutable, à peine 2 jours plus tard, le Premier ministre était contraint de se déclarer personnellement favorable au texte qui avait été présenté par son prédécesseur. Dans une longue interview donnée à France 2, il confirme sa volonté de finalement reprendre le projet de loi de fin de vie dans l'état où il était au moment où il a été interrompu, promettant quand même d'écouter aussi les soignants qui, dit-il, doivent être respectés. Ce texte pourrait donc revenir au calendrier dès le mois de décembre. Un tel empressement a de quoi laisser pantois. Peut-on repartir comme si le contexte politique, l'Assemblée nationale et le gouvernement n'avaient pas changé? Alors que le pays traverse une grave crise institutionnelle et budgétaire, mais aussi sanitaire, comment prétendre que la légalisation de la mort provoquée devrait être prioritaire dans l'agenda gouvernemental et au rang des préoccupations essentielles des Français? Et bien justement, interrogés en septembre sur leurs attentes vis-à-vis du Premier ministre, les Français ont répondu d'abord le pouvoir d'achat, ensuite le système social comprenant la santé, les retraites, et la fin de vie n'arrive que loin derrière en 15e position. Non, nos concitoyens ne sont pas obsédés par le projet de choisir leur mort. Ils veulent simplement vivre leur vie, être reconnus dans leurs droits fondamentaux, d'autant plus s'ils sont en situation de vulnérabilité. Après un répit de quelques mois, donc, peut-être est-il important de se remettre en tête ce qui nous inquiétait alors. Dans une tribune récente dans Le Figaro, Laurent Frémont et Fabien Clairfont rappellent la teneur de ce projet de loi d'avril 2024 auquel le Premier ministre se dit désormais favorable. Il est important de se redire que ce texte allait plus loin que la plupart des législations les plus extrémistes. Il faisait de la France le seul pays au monde à autoriser l'administration de la substance létale par n'importe qui et n'importe où, ignorant la charge psychologique et les traumatismes émotionnels engendrés par la possibilité pour un tiers de mettre fin au jour de son proche. Ce texte plaçait aussi le demandeur de mort dans une froide solitude décisionnelle. Pour obtenir la mort, il suffisait de formuler une simple demande orale et sans témoin, auprès d'un médecin lambda. Le second avis pouvait être donné à distance, sans examen de la personne. La fragilité psychologique n'était pas évaluée. Les potentiels abus de faiblesse ou pression sociale n'étaient même pas considérés. Aucun dispositif de contrôle a priori n'était prévu. Les décisions accordant la mort n'étaient pas susceptibles de recours. Les proches étaient totalement exclus du processus. En définitive, tout était prévu pour favoriser une exécution la plus rapide possible lorsque tant d'actes médicaux autrement moins engageants exigent des garanties renforcées. D'autre part, les soignants seraient contraints de proposer une solution de mort dans des délais très rapides. Les directeurs d'établissement auraient été tenus d'organiser l'administration de la mort en leur mur. Les pharmaciens auraient été privés de leur clause de conscience pour la délivrance des substances létales. Enfin, ce projet était pernicieux, car il travestissait le sens des mots en utilisant des périphrases trompeuses. À l'encontre d'une définition scientifique et internationale constante, les soins palliatifs étaient désormais renommés « soins d'accompagnement », incluant la mort médicalement provoquée. L'euthanasie et le suicide assisté n'étaient jamais nommés, sans doute pour jeter un voile pudique sur leur réalité. Ce serait une grave faute de sacrifier les valeurs du soin et du non-abandon sur l'autel de manœuvres politiciennes. Aujourd'hui même, à la radio, on parle de contrepartie offerte aux macronistes pour faire avancer le dossier sur l'immigration. Il est illusoire de penser que ce sujet pourrait rassembler et provoquer un consensus au sein de l'Assemblée nationale. Les débats qui ont eu lieu sur le sujet, il y a quelques mois, ont démontré au contraire que la question était clivante, propice aux outrances et susceptible de diviser au sein de chaque groupe, d'opposer plus que de rassembler. Certains parlementaires avaient quitté l'hémicycle, dépités devant la teneur des débats, la faiblesse des arguments et la fragilité des encadrements. Ils ont alerté sur toutes les dérives impossibles à maîtriser qui sont déjà constatées à l'étranger. Alors face à la menace d'un retour du sujet sur la fin de vie, sur le devant de la scène, Alliance Vita a immédiatement réagi pour demander à ce gouvernement de s'attaquer enfin aux vraies priorités. Alliance Vita ne cesse de marteler qu'un projet de loi fin de vie, pour être réellement un projet de fraternité, doit prioriser des moyens ambitieux pour garantir l'accès aux soins palliatifs à tous ceux qui en ont besoin partout sur le territoire. La priorité, c'est aussi de régler les multiples crises qui fragilisent le système de santé. La crise de l'hôpital public et des EHPAD, les déserts médicaux, les difficultés d'accès aux soins. Enfin, l'impératif pour tout gouvernement est de proposer une vision à long terme qui prenne en charge les grands défis socio-sanitaires comme celui primordial du vieillissement. C'est la raison pour laquelle nos équipes vont à nouveau solliciter des rendez-vous auprès des députés. La priorité est de reconstruire notre unité nationale autour des principes de fraternité, de sollicitude et de bienveillance. Affirmer aujourd'hui cette position, c'est contribuer au devoir de vérité et de responsabilité dont nos parlementaires, comme chaque membre de la communauté nationale, doivent comprendre qu'il s'agit d'une exigence et d'une urgence politique. Ces derniers jours, dans de nombreux médias, était invité Olivier Goy, atteint de la cruelle maladie de Charcot. Après son film « Invincible été », il fait désormais la promotion de son livre coécrit avec Anne Fulda, « Invincible, derrière le sourire, le combat d'une vie ». Avec sa voix de synthèse et ses paroles pré-enregistrées, il clame sur les plateaux de télévision son amour de la vie, malgré la dépendance. Je le cite. « Mon corps est ce qu'il est. Il décline inexorablement. Je suis assisté dans tous les gestes du quotidien. Mais paradoxalement, je l'oublie. Je me sens très bien dans ma tête. Mon intellect pétille, simplement heureux d'être vivant. Vraiment vivant. Cela peut vous paraître prétentieux, mais je n'ai même pas le sentiment d'être un demi-homme. J'ai l'impression que depuis que j'ai perdu la parole, j'ai surdéveloppé mon regard, à la fois pour m'exprimer, mais aussi pour observer le monde. Non, l'heure n'est pas à l'obsession d'une libéralisation de la mort légalement prescrite en réponse à des souffrances humaines, mais l'heure est aux vulnérabilités qui viennent bousculer le mythe de la toute-puissance. Merci de votre attention et rendez-vous le mois prochain.
Retrouvez toute l'actualité d'Alliance Vita sur le site alliancevita.org.